Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosny, journaliste à Eurosport et avec Maxime Dupuis à mes côtés, on va débriefer la belle et convaincante victoire de l'équipe de France en huitième de finale face à la Pologne. Maxime, est-ce que tu t'es régalé ?
Ouais, c'était plutôt bien, c'était plutôt emballant. Voilà. Après une première période qui était un peu attentiste et où on a eu un peu peur avec cet ascenseur émotionnel sur l'arrêt de Giroud, le sauvetage de Varane et le but de Giroud.
L'arrêt de Lloris ?
L'arrêt de Lloris, oui. Bon,
voilà. C'est pas très grave.
Vous avez compris, le but de Giroud. Bah, c'était plutôt bien et au moins sur le match, on a senti une montée en puissance et ça fait plaisir parce qu'on sent quand même qu'on en reparlera, qu'il y a quand même une belle marge.
Il y a une petite marge, effectivement. On va articuler ce débrief donc, de France-Pologne autour de trois sujets. On va déjà commencer en se posant la question, est-ce que cette victoire en huitième de finale dessine une montée en puissance justement de cette équipe de France ? En gros, est-ce que c'est mieux que la phase de groupe, ce qu'on a vu ce dimanche. Ensuite, Maxime, on parlera de Kylian Mbappé.
Ouais, et on s'est rendu compte, on n'est pas les seuls, que Kylian Mbappé aimait bien quand même les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Il en a déjà joué deux. Les deux fois, il a marqué le match de son empreinte. Bon, on va s'amuser un petit peu à essayer de décrypter les deux matchs. Évidemment, Argentine 2018, Pologne 2022, et de se dire lequel des deux matchs est le plus réussi dans la carrière déjà bien remplie de Kylian Mbappé.
Et on terminera avec les notes d'Eurosport.fr qu'on débriefera. Et là, on parlera essentiellement de Lloris, Koundé, Hernandez, Rabiot et Mbappé.
Voilà, la moitié de l'équipe en fait.
La moitié de l'équipe en fait, voilà. Donc restez avec nous jusqu'au bout, ça va être passionnant, ça va être fantastique. Et puis en plus, vous avez du Maxime Dupuis gratuit.
Ah bah, avec nous, tout est gratuit.
Avec nous, tout est gratuit.
C'est l'avantage.
C'est l'avantage.
Alors après, bon, bah.
Ah, bah oui, c'est gratuit, donc vous attendez pas non plus.
Comme dirait l'autre, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Mais on peut pas dire non plus qu'on vous arnaque trop, on va dire. On fait ça bien, sympathiquement.
De toute façon, ça coûte rien, donc ouais. Il ne fait plus qu'il soit pas content.
Mais Martin, je remarque, tu as mis la marinière très. C'était quoi ? C'est 2012, la marinière, je crois.
Je sais plus, effectivement, j'ai mis la marinière. Et si vous me regardez en vidéo, je suis désolé. Effectivement, ça se marie assez mal à ce qu'il y a derrière. Mais je peux pas me mettre en t-shirt, il fait trop froid.
Et 10 ans, c'était il y a 10 ans, et ça se marie assez mal avec ce qu'on voit aujourd'hui de l'équipe de France. C'est pas le même niveau, mais c'était une équipe de France qui relevait le gant, mais qui était quand même loin de ce qu'on voit. Cette équipe, elle est en quart de finale de la Coupe du Monde, une victoire face à la Pologne. Il y avait le piège, ça s'est bien passé, mais Martin, ça n'a pas été parfait.
Non, et est-ce que ça a été mieux ? Est-ce que ça dessine une montée en puissance de cette équipe de France dans le tournoi ? Moi, j'ai été moins convaincu ce dimanche qu'après la victoire face au Danemark, parce que, très honnêtement, la Pologne, c'est peut-être ce qu'on a vu de plus faible face à la France, peut-être encore pire que l'Australie, notamment dans les sorties de balles, où c'était quand même assez catastrophique. Et malgré tout ça, on a quand même, je ne sais pas combien de temps, mais peut-être quand même un gros quart d'heure où la France subit des occasions polonaises, un gros quart d'heure où la France est tant de difficultés. Alors le but de Giroud change tout, change la physionomie du match. Et sur l'ensemble du match, il n'y a absolument pas photo entre les deux équipes. Mais Maxime, ce quart d'heure quand même, il est important, important surtout pour la suite des événements.
Ouais, on en parlait hier, évidemment, en avant-match. On a toujours des idées un peu préconçues de ce qu'on va avoir. Là, on imaginait une Pologne à 10 sur le but et qui attendrait l'équipe de France. Or, ça s'est en partie passé comme ça, mais pas totalement, parce que les Polonais, évidemment, quand vous regardiez, ils défendaient avec Lewandowski devant et les 9 autres derrière, les 9 autres joueurs de champ. Mais n'empêche que quand elle a senti qu'elle pouvait tenter sa chance, elle y allait. Puis il a fallu un sacré arrêt de Lloris et un sauvetage de Varane pour que ça ne fasse pas 0-1. Alors en effet, ce match, il n'est pas parfait, mais il y a quelque chose qui me fait penser que cette équipe est très forte. c'est que elle a une marge. C'est-à-dire que je pense qu'en 2018, l'équipe de France, Didier Deschamps, a tiré le maximum de ce qu'il avait de cette équipe-là. Une équipe qui était forte défensivement, exceptionnelle même défensivement, mais qui ne pouvait peut-être pas aller plus haut dans son expression. Là, on sent quand même que, bah, bien aidé par ses individualités, et bah, ça remet tout dans l'ordre. C'est-à-dire que quand les individualités ont commencé à parler, le but de Mbappé, et même le sauvetage de Lloris finalement, parce qu'il ne fait pas un très très bon match, mais non. Il y a ce sauvetage-là. La passe de Mbappé, pardon, le but de Giroud, et puis après, ça déroule, on voit que c'est une toute autre équipe. Alors évidemment, à la mi-temps, Didier Deschamps a changé des choses, mais on sent que pour moi, cette équipe, elle a une marge. Elle a une marge sur ses individualités qui raffermissent le collectif, et ça, c'est important.
Elle a une marge pour moi collective, parce que j'ai l'impression quand même que les individualités sont au sommet de ce qu'elles peuvent donner. On reparlera peut-être de Rabiot dans cette émission. Mbappé, Giroud, Griezmann, on est quand même sur des... Et puis derrière, hein, Upamecano et même Varane aujourd'hui, on est quand même sur des individualités qui sont effectivement au top. Mais effectivement, l'expression collective derrière notamment, on est quand même sur quelque chose de très fragile. Alors, sur les côtés, évidemment, puisqu'on a deux défenseurs latéraux, bah, qui laisse beaucoup d'espace dans son dos à gauche, et l'autre qui, à droite, bah, manque de promptitude, manque de... Voilà, dans le combat, il est pas vraiment là, il se fait énormément surprendre sur son côté, Koundé. Donc là, individuellement, on a des failles. Et même dans l'expression collective défensivement en première période, il m'a semblé que cette équipe de France se faisait ouvrir par moments. Ça peut pardonner face à la Pologne, ça ne pardonnera pas en quart de finale. On ne connaît pas encore l'adversaire des Bleus à l'heure où on enregistre ce podcast, mais que ce soit le Sénégal ou l'Angleterre, évidemment, la menace offensive sera bien plus imposante, et on s'en sortira, enfin les Bleus ne s'en sortiront pas indemnes s'ils font exactement la même première période.
Mais Koundé, c'était la chaîne, ça l'alentissait, ça l'alourdissait. Ouais,
je sais pas si c'était la chaîne, mais en tout cas, il y a eu des problèmes avec
Koundé. En fait, moi, ce que j'aime bien cette équipe, ce que j'aimais aussi en 2018, c'est qu'ils étaient implacables, mais qu'elle n'est pas parfaite, en fait. Et je pense qu'elle ne sera pas parfaite jusqu'au bout, mais il y a un potentiel d'emballement qui est intéressant parce que les individualités sont trop fortes. Et je pense que la grande qualité de Deschamps, quand j'y repense maintenant, c'est qu'il a tout de suite accepté d'aller vers autre chose. C'est-à-dire que peut-être que cette équipe n'est pas capable de faire ce qu'a fait 2018 parce que les individualités, justement, sont devenues trop grandes et qu'on ne peut pas leur demander de passer 70 minutes à défendre et que d'elles-mêmes, elles ne le feront pas.
D'ailleurs, quand on voit la rigueur défensive de Mbappé et d'Embélé aussi, hein, qu'on a beaucoup loué, on se rend compte que les difficultés de Koundé et Hernandez sont aussi à rapporter aux errements défensifs de Mbappé et d'Embélé. Je te laisse conclure.
Et parce que je n'ai finalement pas répondu à la première question.
Oui.
En effet, je pense qu'on n'a pas forcément une montée en puissance évidente par rapport au Danemark, qui était leur match référence, qui avait eu aussi un creux au début de seconde période. Là, il y a eu ce creux qui est arrivé plus tôt et qu'aurait pu faire flipper parce qu'à un moment on s'est dit bon, le piège est en train de se refermer sur eux, on sait jamais ce qui peut arriver, et finalement elle s'en est sortie via ses qualités individuelles finalement, et voilà, et qui renforce en fait pour l'instant l'équilibre, il est parfait parce que le danger avec des individualités, c'est qu'elles tirent un peu trop la couverture. Bah finalement non, on n'a pas vu ça, et justement ça sert le collectif, et c'est ça qui me fait espérer. Sur la route d'une éventuelle demi-finale, finale, tout ce que vous voulez, il y aura d'autres moments où ça tangera très fort, je pense, parce que ce n'est pas une équipe qui est faite pour être solide et tenir le choc 100% du temps. Il faudra l'accepter, mais je pense que c'est ce qui la rend aussi attachante, c'est cet emballement qu'elle a quand ça commence à bien dérouler.
Ouais, elle est plus forte devant qu'en 2018, ça paraît aujourd'hui évident, mais pourquoi ? Bah déjà parce que Giroud Mbappé est, contrairement à il y a 4 ans, une relation qui fonctionne à merveille. Et puis parce qu'elle a le meilleur joueur du tournoi, ce qui n'était pas totalement le cas en 2018. Elle a un homme, Kylian Mbappé, qui est complètement au-dessus du lot. Enfin, il y a lui et les autres. Et tant que Mbappé aura ce niveau-là, tant qu'il portera cette équipe de France à ce point-là, tant qu'il sera aussi efficace et qu'il continuera à marquer, bah, pour moi, elle est là, la marge de l'équipe de France sur les autres. La marge de l'équipe de France sur le reste... sur les autres pays, cette marge, elle s'appelle Kylian Mbappé pour moi.
Elle s'appelle Kylian Mbappé. L'Argentine l'avait vu il y a 4 ans. La Pologne le sait aussi, sans doute et sûrement, mais elle l'a vu aussi de très près, notamment Kamil Glik, qui, je ne sais pas s'il l'a reconnu parce qu'il le connaissait quand il était jeune.
Et je ne suis pas sûr qu'Mbappé ait reconnu Glik non plus.
Voilà, exactement.
Parce que,
ça fait un doublé, une passe décisive, 5 buts en Coupe du Monde, après 4 matchs disputés. 9 buts au total, rendez-vous compte, il est le meilleur buteur, c'est Klose. Alors, il ne va pas le dépasser, cette Coupe du Monde-là, mais à la vitesse où ça va, on peut se poser des questions quand même. Donc voilà, Mbappé, en tout point, il fait un tournoi formidable. Et comme en 2018, il réussit 2 huitièmes de finale assez exceptionnels et au moins très marquants. Alors Martin, la question est simple, on va s'amuser un petit peu, on va être un peu moins sérieux, parce que nous, on est très sérieux, mais des fois, on arrive un peu à lâcher les chevaux. Lequel des huitièmes de finale de Mbappé as-tu préféré? Est-ce que c'est l'Argentine 2018 ou la Pologne 2022?
Bah, j'ai mis les deux mêmes notes déjà, ce qui est rigolo. Ouais. J'ai mis 2x9 à Kylian Mbappé, mais si je devais en retenir qu'un, je retiendrais l'Argentine. Parce que c'est l'Argentine. Mmh. Et parce qu'il y avait un espèce de truc qui le dépassait, qui dépassait ce match. C'était vraiment la naissance aux yeux du monde, quoi. Mais, je trouve que celui-ci, alors il n'est pas plus abouti ou je ne sais quoi, mais il est peut-être plus difficile parce qu'aujourd'hui, après ce qu'il a fait en plus dans le premier tour, tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend, tout le monde le connaît, tout le monde le sait, tout le monde sait ce qu'il va faire. Ces deux frappes, on les connaît. Szczęsny les connaît, Glik les connaît, mais il y arrive. Donc il y a peut-être un caractère plus abouti face à la Pologne, mais moi je marche à l'émotion et au spectaculaire, et à l'émotion et au spectaculaire, je trouve que Kazan, c'est plus fort que Doha.
Non mais t'as raison, c'est difficile de battre l'Argentine parce que déjà c'est l'Argentine. Alors évidemment, quand on voit le match et notamment le début de match avec évidemment quand il part au but et qu'il va aller provoquer le premier penalty, on est sur c'est un match de PlayStation, c'est-à-dire qu'il a la défense qu'il faut pour ses qualités. C'est-à-dire que c'est presque trop caricatural pour être vrai. Mais n'empêche que l'émotion elle sort de ça. Et puis c'est la naissance, et c'est toujours pareil, la naissance d'un joueur est toujours plus émouvante d'une certaine manière parce que là on se dit ouais. On était au-delà de la rumeur, on l'avait vu en Ligue des Champions. Là, on a compris que c'était vraiment un phénomène. Évidemment, il a plié l'Argentine ce jour-là et c'était tout le symbole de plier Messi, etc.
Mais ses buts sont plus jolis face à la Pologne.
Ah oui. Ah oui,
là, sans commune mesure. C'est incroyable.
Ce que j'aime dans ce match de la Pologne, c'est ce que tu as dit, c'est que là, il est attendu, il n'y a plus d'effet de surprise. Je parlais de Kamil Glik en rigolant, mais ils savent qui c'est, ils savent qu'ils ont face à eux. Et puis bim, il tape, frappe 2 fois et c'est le patron là. C'est-à-dire, les gars, je mets les choses au point, c'est moi le boss là. Vous avez vu, on a rigolé hier, enfin on a rigolé, non, on n'a pas rigolé, mais Lionel Messi a marqué son premier but hier en match élimination directe en Coupe du Monde. Voilà, Mbappé, lui, il fait ça tous les jours. Donc voilà, c'est aussi pour dire, et là on peut comparer, des fois c'est difficile de comparer dans les championnats différents. Non, là c'est la même compète. Et là, ce qu'il a fait et ce qu'il fait aujourd'hui encore, c'est vraiment la marque du patron. Et moi, il me fait penser ce que je te disais tout à l'heure, Martin. C'est un peu le premier footballeur, j'allais dire NBA, c'est-à-dire qu'il a ses gestes, on les connaît. C'est comme un Stephen Curry qui shoot à 3 points, on sait ce qu'il va faire. Bah ouais, mais n'empêche, on n'y arrive pas. Et bah là, il y a ce côté-là aussi avec lui, parfois peut-être robotisé, mais qui est formidable parce que ça passe quand même. Et là, aujourd'hui, ce match-là, c'en est un peu la preuve.
En fait, contre l'Argentine, c'était un super lieutenant. 4 ans après, c'est un génial général. Et c'est un général surtout qui assume tout ce qu'il est, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il veut faire. Et moi, je trouve que ce qu'on a sous nos yeux depuis le début de cette Coupe du Monde, de la part d'Mbappé, en fait, il repousse toutes les limites. C'est-à-dire que même avant cette Coupe du Monde, je veux dire, il sort quand même d'une saison extraordinaire avec le PSG, même s'il ne gagne pas la Ligue des Champions. En équipe de France, il met un quadruplé face au Kazakhstan, il fait une super Ligue des Nations. Après l'Euro, voilà, tout va bien, il enchaîne. Mais il repousse toujours la limite parce que là, on est en Coupe du Monde. Alors, c'était les phases de poule. Là, c'est le 8e de finale. Et chaque fois, il est là. C'est-à-dire que pas une fois, il s'est planté dans cette Coupe du Monde. Il ne fait pas tout bien. Ne me faites pas dire ce que j'ai... aujourd'hui, dimanche, même si c'est sans doute le meilleur de ces 3 matchs, enfin 3 matchs et demi puisqu'il est rentré face à Tunisie, il ne fait pas tout bien. Mais au final, c'est lui qui a droit de vie ou de mort sur cette sélection. C'est délirant, c'est-à-dire, depuis quand on n'avait pas vu ça en équipe de France? On avait si souvent loué l'équipe de Deschamps, la génération Deschamps, collectif, etc. Là, on est sur un truc, le mec transcende tout ça. Il transcende tout ça, alors que c'est une équipe championne du monde, je le rappelle. Donc pour tout ça, moi je trouve ça absolument extraordinaire ce qui se passe sous nos
yeux. Et ce qui est drôle, c'est que évidemment il n'y a pas de comparaison avec les autres, mais la filiation du numéro 10 dans le dos, voilà. C'est assez drôle de se dire qu'il a le numéro 10. Voilà, il assume tout. Alors le seul regret, t'as dit, il fait ce qu'il a dit. Le problème, c'est qu'il parle pas beaucoup.
Ouais, il dit plus rien là.
C'est le seul regret parce que voilà, je pense qu'il est en mission, il est concentré. Ça fait partie de son storytelling, pardon. Bon, on aimerait bien quand même voilà, qu'ils viennent parler, parce que ce n'est pas forcément un moment désagréable. Il n'y a qu'à voir comment ça s'est passé avec Antoine Griezmann vendredi. Donc voilà, mais encore une fois...
J'ai une question à te poser, Maxime. Depuis quand tu n'avais pas vu l'équipe de France aussi dépendante d'une individualité?
Ah bah,
sous Deschamps jamais.
Sous Deschamps jamais, même si c'est toujours pareil, on parle
oui,
de Griezmann
en 2016.
C'est, mais c'est une, comment, oui voilà, mais c'est plus discret voilà, c'est ce côté moins spectaculaire, c'est ce côté plus Griezmann. Évidemment, il y a eu Griezmann en 2016, mais avant, bah évidemment, oui, on va remonter à Zidane tout simplement. C'est que le Zidane qui passe la phase de poule en 2006, ça devient le go-to guy, le type sur qui vous appuyez. Et puis avant, bah évidemment, vous remontez à Michel Platini, c'est normal, voilà. Alors évidemment, c'est la fin de l'histoire qui validera tout
exactement,
ça.
Exactement, parce que là, s'ils se font sortir voilà, en quart par l'Angleterre ou le Sénégal,
ça aurait été un combattant, non pas de l'inutile, mais il aura manqué évidemment beaucoup. Mais je tiens à dire, et je suis le premier à le dire, je t'ai beaucoup critiqué l'an dernier à l'Euro. Le fait, mais non, bah oui, mais c'était, je peux republier un papier.
Mais t'avais raison, voilà. Maxime.
Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, quand il gomme, en fait, il s'était tellement, comment dire.
Je pense que la mission l'écrasait il y a un an, et là, elle le transcende.
Oui, elle avait pas lieu d'être cette mission-là. Il s'était mis sur les épaules quelque chose qui n'avait pas lieu d'être. Finalement, bah, il a grandi, il a gagné aussi peut-être dans la. Ça fait partie. De toute façon. Quand il a explosé au plus haut niveau, on savait tous qu'il y aurait un moment des crises de croissance. C'est comme ça, c'est normal. On ne peut pas être bon de A à Z. Voilà. Cette crise de croissance, elle a été XXL à l'Euro 2021. Il l'a surmontée, il a compris. Il fait beaucoup, mais pas trop. Voilà. C'est exactement ce dont on a besoin avec lui.
Je crois qu'on peut, conclure là-dessus. Et on va terminer cette émission, ce débrief. Avec les notes donc, qu'on a mises aux joueurs de l'équipe de France, on va les débriefer. On va faire un tour d'horizon. Voilà, je vais vous les donner alors de tête, mais je crois m'en souvenir. Lloris 5, Koundé 5, Varane 7, Upamecano 6,5, Hernandez 5,5, Rabiot 8, Griezmann 7, Tchouaméni 6, Mbappé 9, Dembélé 6,5 et Giroud 7,5.
7,5 et le total ?
Le total, le numéro complémentaire aussi. Voilà. Donc, on a décidé de vous débriefer 5 notes.
Ouais.
On va essayer d'être bref et d'aller assez vite. On va démarrer par Lloris, à qui j'ai mis 5. Pourquoi 5? Parce qu'il fait une belle parade, le réflexe qu'il faut. Parce que s'il n'a pas ce réflexe-là, c'est compliqué. C'est pas la plus grande de ses parades en bleu. Encore faut-il la faire. Mais il a dégagé quand même une fébrilité sur la première période, en fin de première période, dans les dégagements et dans une sortie aérienne qui ne lui ressemble pas.
Ouais, alors étonnant. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit un émotif. C'était sa 142e sélection. Alors, peut-être que finalement, il y a eu quelque chose qui l'a rattrapé. Mais en tout cas, il y a évidemment ce ballon relâché sur la tête de Lewandowski. Là, il a de la chance parce qu'il se rattrape très vite. Et cette relance. Alors, le jeu au pied, ça n'a jamais été son fort.
Catastrophique,
on le sait.
Ce soir encore.
À un moment, il a une relance assez simple. Il la balance directement, je ne sais plus sur quel Polonais. Mais là, on se dit, oulala, il y a un truc qui ne va pas. Et heureusement. Il y a cet arrêt, j'ai envie de dire, signature de Lloris dans les grands tournois. Voilà. Il y a toujours des matchs où il va sortir un arrêt ou deux, où on se dit, là, il sauve la patrie. Et c'est vraiment le truc, alors on n'en est pas là, la fin de sa carrière, qui restera à mes yeux. C'est toujours un arrêt en match. Il n'a jamais la prestation spectaculaire ou peu où il sort 10 ballons.
Sauf l'Allemagne en 2016.
Sauf l'Allemagne en 2016, voilà, exactement. Mais le reste, c'est ses arrêts signature où il est là pour sauver le truc. 5, ça me paraît logique parce qu'il y a encore une fois cet arrêt. Et c'est sûr que s'il ne fait pas cet arrêt que l'équipe de France est menée, ça peut descendre très très bas dans les notes. Ce n'est pas 4,5, je pense, il n'y a pas cet arrêt.
C'est vrai. Il y en a un à qui on a mis la moyenne, mais qui était le plus proche de ne pas avoir la moyenne dans ce 11, c'est Jules Koundé. On a mis 5. Voilà, on a vraiment penché entre le 4,5 et le 5. On a finalement mis 5 grâce au scénario du match et surtout grâce à sa seconde période qui, pour le coup, était beaucoup plus facile. Mais alors. Avant la pause, il a connu des difficultés terribles. Ça pose un vrai problème sur cette aile droite, puisque bah d'ailleurs, Benjamin Pavard n'est pas rentré. Hein, donc
ouais.
C'est officiel. La doublure à droite, c'est Axel Disasi. La doublure à gauche, c'est Kamavinga. Si on nous avait dit ça au début du tournoi, je pense que personne ne l'aurait cru. Bref, début de match très compliqué. Dans les duels, en retard ou en manque de niaque. Il oublie aussi souvent son vis-à-vis. Il se fait enrhumer. Dans la relance, c'est compliqué aussi. Alors, il se rattrape en seconde période. Mais quand même, Maxime, Koundé, ça respire pas la sérénité. Et c'est le vrai point faible. On le savait avant le tournoi, mais ça se confirme de cette équipe de France.
Ouais, bah, il a pas le métier, tout simplement. Ça se voit. Même sur des phases offensives, on le voit qu'il monte derrière, Dembélé, alors évidemment, Dembélé, c'est un ailier qui peut déborder, mais c'est un ailier aussi qui rentre. Et lui, ne prend jamais l'aile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où ça va dédoubler. Et moi, ce que j'attends d'un arrière latéral, évidemment, de métier, c'est plus simple, c'est qu'il dédouble et qu'il offre une solution.
Je pense que ce n'est pas les consignes que lui donne Deschamps.
Ouais, c'est... mais je pense qu'il peut même... pas. Et je pense qu'il ne sait pas faire. Voilà,
il fait un bon centre pour Giroud en seconde période, qui met son petit externe. Mais hormis ça, c'est vrai que c'est zéro.
En fait, le problème, il va se poser quand il va y avoir du monde face à lui. Voilà. Encore une fois, quand vous allez arriver, si tout se passe bien, face au Brésil ou je ne sais quelle équipe, bah, même voir face à l'Angleterre, si l'Angleterre passe, bah, ce sera problématique. Donc, voilà. Et puis, le problème, c'est qu'il n'a pas une... C'est pas qu'il a une marge de progression. C'est-à-dire qu'un arrière latéral qui fait un mauvais match, on peut se dire, bon, il s'est raté. Lui, c'est qu'il n'est pas arrière latéral. Il fait du mieux possible. Alors, il a fait des bons matchs au Barça, ok. Sauf que là, bah, c'est la Coupe du Monde et que c'est le moment où le niveau va être très, très relevé. Donc, à part croiser les doigts, je sais pas.
Et de l'autre côté, quand Théo Hernandez, à qui on a mis 5,5, n'apporte pas offensivement, bah, forcément, sa note s'en ressent. 5,5, mais parce que c'est pareil, il a laissé beaucoup de courant d'air dans son dos. Lui aussi, un manque d'impact et beaucoup de latitude laissée à son vis-à-vis. Donc, c'est pareil. De toute façon, le danger est souvent venu quand même des côtés. Et quand il ne compense pas par ses montées, par une passe décisive, forcément, son bilan, il est atteint et il est moins indispensable à cette équipe de France. Encore une fois, Maxime, si on détermine d'où vient le danger du côté de l'équipe de France, bah, c'est sur ces deux ailes-là pour des raisons différentes.
Ouais, surtout que faut se rappeler qu'en début de compétition, celui que Didier Deschamps a choisi, c'est Lucas, c'est-à-dire le plus défenseur des deux. Théo Hernandez, c'est évidemment le feu follet. Il a apporté face à l'Australie quand il est rentré. Il est là, il apporte. On voit c'est très simple aussi, il y a des moments où vous voyez que le ballon ressort, il va centrer, voilà. Ce qui pas une évidence pour d'autres joueurs, lui il a ça en lui et il est important offensivement. Et comme tu l'as dit, s'il n'a pas cet apport offensif, bah défensivement, il ne va pas forcément compenser parce que ce n'est pas dans ses qualités. Et ce qui est embêtant, un peu comme Koundé, même si lui pour le coup c'est son métier d'être latéral, bah, c'est qu'il est un peu mis à mal face à la Pologne. Voilà. Et donc la question de la suite se pose parce que, encore une fois, la difficulté va aller en augmentant.
Ah oui.
Et a priori, ça me fait penser à Pavard en 2018. Voilà, ça va, jusqu'au moment où on se retrouve face à Hazard. Et que là, c'est très compliqué. Voilà. Donc lui, au moins, il a le métier. Peut-être qu'on peut se dire que ça ira mieux au prochain match. Mais c'est vrai que c'est embêtant parce qu'en plus, ça casse une courbe pour lui qui était plutôt satisfaisante.
Allez, on va passer aux meilleures notes pour l'équipe de France et on va démarrer par Adrien Rabiot, qui, moi, me fait complètement oublier Pogba et Kanté. Alors, j'exagère peut-être un peu,
mais
depuis le début de la compétition, on ne parle plus des absences de Pogba et Kanté et c'est grâce à cet homme. Alors, Tchouaméni est plutôt bon depuis le début du tournoi, il n'est pas transcendant. Il est en dessous de ce qu'il nous a montré depuis le début depuis ses débuts en équipe de France, mais ça reste quand même très honnête. Mais alors, Rabiot, messieurs, dames, Adrien Rabiot, là encore ce dimanche, je l'ai vu partout. Je l'ai vu dans le combat, je l'ai vu aussi dans des déplacements de fonction, dans des projections. Je l'ai vu à la récupération, beaucoup. Et c'est lui qui a un peu remis cette équipe de France quand même dans le droit chemin, en y allant, quoi. Tout simplement en y allant. Et alors sa seconde période a été exceptionnelle. Donc, franchement, on pouvait avoir des doutes aussi quand même sur Adrien Rabiot depuis au début de compétition parce que succéder à Pogba, succéder à Kanté, son euro n'avait pas été trop mal il y a un an, mais malgré tout, en Italie, alors il a fait un bon début de saison, mais il ne casse pas tout non plus à Turin. Et même en Italie, à un moment, on a parlé d'un certain plafond de verre pour Rabiot. Mais alors ce tournoi, cette Coupe du Monde de Rabiot, je ne m'y attendais pas.
Ouais, moi c'est simple, si on m'avait dit qu'aujourd'hui je dirais ce que je vais dire, c'est-à-dire que Rabiot est indispensable à cette équipe de France, je ne me serais pas cru. Voilà. Non, mais c'est formidable, tu l'as dit, oui, évidemment, si ça tombe et que ça va moins bien, on y repensera. Pour l'instant, on a oublié Pogba et Kanté, tout simplement, le milieu de terrain marche bien. Et pourquoi aussi Rabiot est peut-être plus en vue que Tchouaméni? On sait qu'il y en a un des deux qui compense plus, qui est appelé à plus rester derrière, et pour le coup c'est Tchouaméni. Mais Rabiot, il donne des raisons à Didier Deschamps de lui avoir donné les clés, d'aller chercher plus haut. On l'a vu dès le premier match face à l'Australie. Il va gratter des ballons plus haut. Il n'hésite pas à se projeter. On l'a vu quand il est rentré face à la Tunisie. Pareil, il a apporté quelque chose. Aujourd'hui, il a même à des moments presque joué quand l'équipe de France était en phase de récupération de ballon, presque numéro 10 à la place de Griezmann. C'est Griezmann qui était plus bas. Donc on sent qu'il est en confiance, qu'il peut avancer. Et le joueur qui avait froid en Bulgarie, je crois que c'était en Bulgarie.
Suède, non ?
Non, je crois que c'était en Bulgarie. Il y a un match en Bulgarie où il dit « j'étais pas chaud, j'avais froid ». En gros, bah là, on ne le reconnaît pas. Ce sera jamais… En fait, il y aura toujours une méprise avec lui parce qu'il a l'allure de son talent. Entre guillemets, il est grand, un peu indolent, il est facile. On ne l'appelle pas le duc pour rien. Voilà, il a cette terre un peu altier. C'est son football qui veut ça. Aussi, pourquoi on passe parfois à côté ? Il y avait un très bon papier chez nos confrères de l'équipe aujourd'hui qui expliquait que c'est un type qui ne fait pas de pub, n'a pas de contrat chaussure, qui… Bah en gros, lui, il ne joue qu'au foot. C'est-à-dire que ses contrats, son argent vient du foot, il n'a pas besoin du reste. Donc, il est un peu en décalage, donc on le voit moins.
Et là, peut-être, il le fait très bien.
Peut-être qu'il fait moins sa pub. Donc, à partir du moment où vous faites moins votre pub, bah, il y a moins de monde pour vous brosser. Sa mère, c'est un personnage particulier. Il y a moins de personnes qui, peut-être, appellent pour dire « c'est le plus beau, c'est le plus fort ». Or, bah, c'est quelque chose qui doit toujours nous mettre la puce à l'oreille. Quand il est dans une équipe, en club, il est toujours là. Donc à un moment, c'est qu'il sert à quelque chose. Et voilà, et là, il est en train de vivre la meilleure période de sa carrière, évidemment, en équipe de France. Souvenez-vous quand même que c'est le joueur qui avait refusé d'être réserviste, que Deschamps a mis de côté à raison, et qui aujourd'hui porte une partie du milieu de terrain sur ses épaules. Donc là, c'est vraiment la résurrection absolue. Et il est vraiment, pour moi, aujourd'hui, indispensable à cette équipe. Il y en a d'autres, mais lui, il l'est aussi.
Et on terminera, on va faire un peu plus vite sur Kylian Mbappé, parce qu'on a déjà fait un sujet sur dédié une partie de cette émission à Kylian Mbappé. C'est plus sur la note, là. J'ai assez peu, sur les 10 dernières années, mis de 9 à un joueur de l'équipe de France. Je pense qu'il y a un Griezmann en demi-finale de l'Euro. Il y a un Mbappé en 8e de finale. Face à l'Argentine et bon, face au Kazakhstan évidemment. Ouais. Mais là, ce 9-là, c'était difficile de lui mettre moins.
Ouais, et moi, je suis le garde-fou ici, sachez-le, contre le 10. C'est-à-dire que le jour où il y aura un 10, je le souhaite en Coupe du Monde, mais il faut vraiment que ce soit très haut. Là.
S'il fait le même match en finale, peut-être.
Oui, oui, là, je peux déclencher le 10, pas de problème. Mais parce qu'un match n'est jamais parfait par essence et que 10 face à la Pologne, non. Mais on est d'accord, on n'y a pas pensé pour le coup. Mmh. Mais non, 9, ça me paraît. On peut osciller entre 8,5 et 9. Oui, voilà. Mais encore une fois, voilà, bah, de toute façon, 2 buts, une passe décisive.
C'est lui qui déclenche tout. Enfin, voilà,
voilà 8e de finale de Coupe du Monde, c'est plutôt pas mal. Il déclenche tout.
C'est plutôt
tout.
Pas mal, ouais.
Il déclenche, il est à la finalité. Il réussit son tournoi. Donc voilà. Et des fois, c'est marrant. Alors, dans la construction des notes aussi, il y a évidemment ce que vous notez sur le match. Il y a toujours un petit fond du reste voilà aussi qui permet des fois de conforter une impression. Et là, ne serait-ce que pour son début de tournoi et tout ce qu'il fait, ouais, le 9 me paraît complètement justifié.
C'est vrai que si on devait noter le début de tournoi de Mbappé, on serait pas loin du 9 aussi. Merci ouais. Maxime pour ce débrief.
Merci Martin.
Voilà, tout chaud. Merci à Seb qui va le mettre en ligne, qui va le peaufiner, qui va nous rendre beau. Et ça, c'est difficile.
Ça, c'est le plus difficile.
Ça, c'est le plus difficile. Et merci à Quentin pour les visuels. À très bientôt, dès demain, un nouveau numéro du FC Stream.
À froid. Et on connaîtra l'adversaire des Bleus.
Et oui, Sénégal ou Angleterre. Ciao, ciao.
Salut.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.